Bienvenue sur Radio Jeunesse. Radio Jeunesse. Radio Jeunesse, un projet de la Jeunesse de la Côte, centre de jeunesse et animation socioculturelle à Peuzeux et Corset-Cormondrèche.
Bonjour, bienvenue sur Radio Jeunesse. On est ici avec les ACF Radio. Nous avons une émission spéciale sur le thème de l'école. Donc on est aujourd'hui avec trois chroniqueuses, Béatrice, Ekaterina et Luna. Et puis nous avons aujourd'hui une invitée spéciale, c'est Noémie Beljean. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien.
Bien, merci beaucoup d'être là. Donc enseignante au centre de la Côte, elle va nous donner un peu un éclairage sur les différentes questions qu'on se posait en lien avec l'école. Donc je vais directement passer la parole à Béatrice, qui va prendre un des sujets, une des grandes questions qu'elle se posait, qui était en lien avec la suppression des devoirs.
Bonjour. Pour la question qu'on va vous poser et qu'on a posée aux habitants de Peuzeux est que pensez-vous de la suppression des devoirs? Donc, est-ce que vous connaissez déjà un peu le sujet?
Oui, on en a bien sûr entendu parler en tant qu'enseignant.
Et donc, enfin, c'est un projet pilote de supprimer les devoirs et c'est Monica Marefti qui a voulu que ça se fasse en Suisse romande. Et ça se passera à Neuchâtel en 2020. Mais ça a déjà été fait en Suisse allemande à Könitz, plus précisément. Mais pourquoi cette suppression? Donc, il fallait en revenir à Monica Marefti, qui dit qu'il y aurait moins de conflits quotidiens au sein des familles et plus de temps libre pour nous, les élèves. Et donc, nous avons posé la question aux habitants de la ville de Peuzeux. Et puis, du coup, voici leur réponse.
Eh bien, moi, je trouve que c'est dommage de supprimer les devoirs à la maison parce que c'était bien d'avoir les contacts avec les parents ou les grands-parents. Ça donnait des sujets de conversation entre les enfants et les parents, la famille.
Moi, je ne partage pas du tout cette manière de voir les choses. Les devoirs font pour moi partie intégrante de l'apprentissage, de l'évolution. On ne peut pas tout faire et apprendre en classe, donc il faut un moment de réflexion, il faut un moment de concentration pour fixer tout ce qu'on a vu en classe à la maison. Donc je suis farouchement opposé à la suppression des devoirs.
Donc vous donnez les devoirs à vos élèves?
Évidemment, et ceci très régulièrement. Et souvent, c'est de la révision, donc on essaie de fixer à long terme ce que l'on a vu en classe.
Alors, je suis complètement contre parce que j'ai beaucoup de plaisir de faire des devoirs avec mes petits-enfants et je trouve que c'est intéressant de savoir ce que vous faites à l'école là, quand on est à la maison.
Alors je serais plus pour que l'école prenne un petit peu en charge. Bon, j'ai plus d'enfants à l'école, mais disons qu'il y ait moins de travaux à faire à la maison. Vu les horaires scolaires, certains jours, je pense que vous terminez l'école assez tardivement. Et s'il faut encore faire des devoirs en plus, il y a peut-être un peu moins de temps libre pour vous ressourcer, disons, ou faire autre chose, vous libérer un peu.
Donc vous êtes aussi d'accord pour la suppression des devoirs, qu'il n'y ait plus de devoirs
Complètement, peut-être pas.
Oui, mais,
mais peut-être un peu, oui, quand même.
Ben, je trouve que ben, en faisant les devoirs, ben, c'est... Bah, les devoirs, je trouve que c'est bien parce que après tu t'entraînes pour les tests. Enfin, voilà.
Donc nous avons du coup entendu les réponses et on y voit bien que les gens ne sont pas d'accord car c'est pour eux un rapprochement ou un contact avec la famille ou encore pour la deuxième personne qui est un enseignant, partie intégrante de l'école. Mais même les élèves sont d'accord car c'est bien pour les tests. Et donc vous, quel est votre avis?
Moi, je pense que c'est une très bonne idée sur le papier, comme ça, effectivement, de laisser plus de temps libre aux élèves. Ça me paraît être important qu'il n'y ait pas encore 3 heures de devoirs chaque jour à faire à la maison. Mais après, en tant qu'enseignante, c'est vrai que j'ai un peu de la peine à voir comment ça peut être vraiment appliqué. Parce que je pense que, par exemple, si on prend dans les langues l'apprentissage du vocabulaire, certains élèves, ça leur suffit ce qu'on fait en classe pour savoir leur vocabulaire sur le bout des doigts. Et pour d'autres, ben, ils ont vraiment besoin de revoir les choses à la maison. Donc je pense qu'il y a une partie, c'est vraiment importante. Peut-être une solution, ce serait une solution intermédiaire où on limiterait un peu la quantité de devoirs.
Merci beaucoup.
Nous avons maintenant Luna qui va venir poser la question des classes flexibles. Donc elle va nous expliquer déjà un petit peu ce que c'est et puis on va également écouter le micro-trottoir.
Bonjour. Les classes flexibles, c'est un projet qui consiste à remplacer les chaises normales où on est assis en tant qu'élève par des places assises qui permettent aux élèves de s'asseoir où ils veulent et de la façon qu'ils veulent par poste. Par exemple, un poste, c'est qu'il travaille debout, une table haute, il travaille debout ou sur des grandes bulles, puis ils sont assis sur les boules. Donc voilà, et puis maintenant on va attendre les micro-trottoirs des personnes.
Donc déjà dans ce que je connais de manière très proche et ce qui me concerne, les élèves ont déjà la possibilité de s'asseoir où ils veulent. Seulement, je me permets de les déplacer de temps en temps lorsque il y a trop de bavardage ou lorsque ça manque de concentration. Maintenant, qu'est-ce que l'on entend par bouger? Donc on se lève quand on veut, on va... C'est d'autres camarades, comment ça se présente?
Non, ils peuvent en fait s'asseoir comme ils veulent. Donc ils peuvent être assis, couchés, debout. Donc c'est vraiment genre une liberté. Donc ouais, ça c'est où est-ce qu'ils veulent, mais... Ouais, je ne peux pas poser la question.
Non, mais c'est bon, j'ai compris. Moi, j'y adhère uniquement si on peut aussi... être suspendu, par exemple, à un crochet. Non, je rigole. Non, je ne vois pas non plus. Je ne vois pas l'intérêt d'une telle mesure. Je ne pense pas. Déjà pour écrire par terre, etc., je ne vois pas l'intérêt. Mais je suis un vieux, des vieux, n'est-ce pas? Donc, non, je ne vois pas l'intérêt. Je ne comprends pas. Peut-être que je pourrais te répondre à l'occasion en ayant réfléchi au côté positif. Parce que quand on voit du négatif, il faut aussi, même dans le négatif, il y a du positif. Donc il y a certainement, pour ceux qui ont pensé, il doit certainement y avoir des éléments positifs, mais que je méconnais actuellement et en ce moment.
Mais je pense que ça correspond plus à ce que les enfants ont envie de faire, mais que ça les empêche de se concentrer parfois.
Bon, ça peut être fait. Ça dépend des élèves, s'ils ont besoin de bouger et tout. Si ça ne perturbe pas les autres élèves. À la limite, c'est toujours... faut trouver le juste milieu, disons. Hein?
Oui, alors, moi, je pratique aussi les classes flexibles, enfin, semi-flexibles. J'ai quelques éléments en classe et puis c'est vrai que ça permet aux élèves de bouger et puis ça favorise leur concentration et puis le fait de choisir leur position de travail pour eux, il y a aussi un côté sympa à cela et puis ouais, ils s'impliquent dans le travail, ils trouvent ça chouette.
Là, on a pu entendre des avis différents. Donc on a vu qu'il y avait eu quelqu'un qui n'était pas vraiment d'accord parce qu'il trouvait que les élèves bougeaient déjà trop et on a pu entendre quelqu'un qui trouvait que les élèves, ça... c'était mieux pour les élèves parce qu'ils avaient plus de liberté et tout. Et vous, qu'est-ce que vous pensez des classes flexibles?
Alors, c'est quelque chose que j'ai jamais pratiqué moi-même. Je crois que c'est quelque chose d'assez nouveau qui se pratique maintenant, surtout au cycle 2. Enfin, il y a un peu maintenant des projets comme ça. Mais d'après ce que j'ai pu voir ou entendre, ça a l'air de vraiment bien fonctionner. Je pense qu'il y a certains enfants qui, dans le cadre... standard des classes comme on a actuellement, se sentent pas très à l'aise. Ils auraient besoin de plus bouger. Et puis, je pense que pour ces élèves, en tout cas, ça les aiderait à être plus concentrés, à faire un meilleur travail. Après, je pense que c'est un changement assez radical de façon d'enseigner. Donc, il faudrait essayer l'expérience avec des enseignants qui sont partants pour faire ça. Et qui sont d'accord de revoir toute leur façon d'enseigner. Mais je pense que c'est un bon projet.
Merci beaucoup.
De rien.
J'ai grimpé sans lâcher mes principes et mes valeurs. Jamais j'oublierai d'où je viens, je sais ce que c'est d'être un homme de couleur. Je sais ce que c'est de taffer deux fois plus pour pouvoir être à la hauteur. Si je chante la cosmopolitanie, c'est parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. On m'a dit petit, réveille-toi, t'es un peu trop rêveur. Petit, tu as un trop gros appétit, la réalité est fade et sans saveur. Oublie tes rêves d'ado, comme tout le monde, suis le troupeau. Mais le têtu que j'étais avait de la détermination plein le sac à dos. Aucune de leurs dissuasions m'a mis le genou à terre. Aucun médecin au monde ne pouvait soigner ma fièvre. Tout est possible quand tu sais qui tu es. Tout est possible quand t'assumes qui tu es. Aujourd'hui, regarde-moi contempler mes sacrifices au sommet de mon épreuve. J'ai chanté l'amour et la paix pendant des années. Je suis ce mélancolique qui se soigne quand ces MAU se mettent à rimer. Un rappeur positif pour donner de l'espoir à cette jeunesse désabusée. À l'heure où on nous braque avec un AK-49.3 pour nous faire plier. Ma famille, tout roule pour moi car ce sont mes moteurs. Mon carré VIP, c'est mon cercle familial, pour eux je brillais avant les projecteurs. I love you Comoria, I love you Massilia. Mon image, mon discours, mon parcours, mon combat, tout ça c'est pour pouvoir leur faire honneur. Le cancer m'a volé un frère, il n'y a que mes gosses pour éponger mes pleurs. Toujours debout à chanter que l'amour est le meilleur fusil contre la terreur. Je le décharge quand je chante, dans une MJC ou dans les restos du cœur. Je suis de retour plus humain que jamais, envoyez-moi des sourires plus que des fleurs.
Voilà, c'était Soprano, mon Everest. Je passe maintenant la parole à Ekaterina, qui a une question en lien avec l'intégration des enfants qui ont un handicap. Salut Ekaterina.
Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intégration d'enfants avec un handicap. Selon EasyM, l'association genevoise de parents et d'amis de personnes mentalement handicapées, il était naturellement que les enfants mentalement handicapés aillent à l'école. Encore début de XXe siècle, personne n'aurait osé y croire. Avec le professionnel, les parents ont mené une bataille de longue haleine pour obtenir le droit de la scolarisation de leurs enfants. C'est finalement en 1960, avec l'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance invalidité, qui s'appelle LRA, LAI, que ce droit fut accordé aux enfants porteurs d'un handicap mentalement léger. Il faudrait attendre les années 1970 pour que l'aptitude de la scolarisation d'enfants porteurs d'un handicap mental sévère soit aussi reconnue. Et maintenant, je vais vous écouter ce que les gens ont dit sur ça.
Parce que ça charge énormément les enseignants. Il faut qu'il y ait suffisamment d'enseignants pour pouvoir accompagner ces enfants, pour qu'ils se sentent bien au sein d'une classe où il y a des enfants turbulents et puis beaucoup plus rapides d'esprit. Mais après, il faut aussi que les enfants apprennent à vivre avec des camarades qui ont des handicaps.
Je suis en train de faire une formation d'éducatrice sociale. Donc, les différences, de manière générale, c'est une tranche de la population qui me touche. Comme vous pouvez le voir, je suis aussi un peu différente, puisque je n'ai pas la même couleur que vous. Et donc, je pense que oui, c'est une bonne idée, parce que ce qu'il se passe, c'est un peu notre politique en Suisse, de manière générale. Du moment qu'il y a des différences, on parque les gens un peu de côté, donc les handicapés, les vieux, voilà. Donc oui, que toute la société soit ensemble, je pense que ça peut être une bonne chose, mais sous certaines conditions.
Alors moi, je trouve ça très bien. Je suis enseignante et puis j'accueille actuellement un élève autiste dans ma classe. Et je vois tous les effets positifs que ça peut avoir sur lui. Il développe plein de compétences. Que ce soit au niveau social ou même scolaire, et je trouve que c'est vraiment chouette.
Et vous, madame, que pensez-vous ?
Alors, j'ai un peu finalement le même genre d'avis que ce qu'on a entendu ici. Je pense que l'intégration, c'est important. C'est important pour des élèves standards, par exemple, d'apprendre à vivre avec des élèves qui sont un peu particuliers. Ça permet aussi une ouverture à la tolérance. Donc je pense que c'est vraiment une bonne chose. Ce qui est important par contre, c'est que les enseignants aient aussi du soutien. C'est-à-dire que suivant le genre d'handicap, par exemple, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui accompagne cet élève en classe. Et puis actuellement, je pense qu'on manque un petit peu justement d'accompagnement, et puis parce qu'on n'est pas formé à la base pour accueillir. On ne connaît pas toutes les problématiques, donc ça, c'est un peu le côté délicat de l'intégration.
Ok. Et là, je vais vous demander, expliquer selon la violence des élèves entre aux professeurs comme aux enseignants vers les enseignants. Selon le site internet français Le Point, les violences envers les enseignants ont progressé de 7% entre 2017 et 2018, ce qui met en évidence le quotidien des professeurs de plus en plus difficile. Les progressions physiques restent rares, la plupart de cas de violence sont de l'ordre de la menace, des insultes et de la diffamation. Les enseignants attendent que le ministre de l'Éducation nationale prenne des mesures comme, par exemple, un registre représentant les accidents dans chaque établissement. Et là, je vais vous faire écouter ce que les gens ils ont dit sur ça.
Que déjà ces personnes-là n'ont pas de respect envers les plus grands, que les profs méritent d'être respectés parce qu'ils enseignent ce qu'ils doivent enseigner.
Alors moi, j'en ai jamais eu écho, j'ai jamais eu d'expérience à ce niveau-là, mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est de plus en plus fréquent quand même. Et puis qu'il faut vite intervenir dans les cas où ça se présente.
Alors ça, c'est inadmissible. J'estime qu'il n'y a plus de respect. C'est dommage, c'est peut-être dû au nombre de nationalités, disons, d'autres principes, d'autres cultures. Et ça, je trouve qu'il y a un manque de respect envers les profs, je pense. Là, il y aurait à faire quelque chose, hein.
Je crois que les profs, oui, ils ont un peu un souci avec les jeunes. Hein. Mm-hmm. Il faudrait hein. Comment est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait demander aux jeunes comme toi, comment est-ce qu'il faudrait faire pour les stimuler, pour qu'ils ne fassent pas toutes ces bêtises-là. Hein.
Ouais.
Et puis même tout ce qui est savoir-vivre, savoir se comporter, ne pas mettre par terre n'importe quoi, hein, par exemple.
Ah ouais, non.
Et surtout, avec les profs, c'est clair qu'il faut être correct. Hein. Mm-hmm. Hein.
Et qu'est-ce que vous pensez?
C'est vrai que de la violence, je dirais, de la violence verbale, c'est quelque chose qui peut arriver assez fréquemment quand on travaille avec des adolescents. C'est quelque chose qui me paraît... ça fait partie de la chose de travailler avec des adolescents. Ils vont chercher les limites et ça, je pense que c'est normal et ça fait partie de notre job de leur dire là, tu as dépassé les limites et puis de sanctionner par rapport à ça. Personnellement, j'ai pas vu que c'était en progression ces dernières années. Mais voilà, je crois que c'est quelque chose qui a toujours existé et qui existera toujours. Et on espère que ça va pas devenir par contre de pire en pire. Voilà.
Merci beaucoup, au revoir.
Voilà, merci beaucoup. Nous sommes toujours donc dans une émission spéciale école avec Noémie Beljean, enseignante au Centre de la Côte. Et puis nous arrivons avec notre dernière chroniqueuse, Béatrice, qui est déjà passée en début d'émission, qui a encore un sujet à débattre, qui est l'école à la maison. Donc quand les parents donnent l'école aux enfants à la maison. Donc je lui laisse la parole. Salut Béatrice, je te laisse la place.
Merci. Donc l'école à la maison, c'est un projet familial, social et démocratique, c'est-à-dire que les élèves travaillent chez eux et ne vont pas à l'école. Et généralement, c'est enseigné par les parents ou encore les enseignants privés, donc l'immigratoire.
Je pense que pour certains, ça peut être bien.
Je trouve ça nul parce qu'il n'y a pas les enseignants.
Et
c'est tout.
Que pensez-vous de l'école à la maison, donc les parents qui enseignent aux enfants, en fait?
Si les parents sont qualifiés, pourquoi pas? Il manque quand même, à mon avis, un élément crucial, c'est le contact avec les camarades. Donc, l'enfant qui se fait enseigner à la maison, il n'a pas tout le contact précieux avec ses camarades de classe et avec ses profs, évidemment.
Ça, je trouve très triste pour les enfants parce qu'ils ne sont pas socialisés, ils n'ont pas l'expérience de la vie en groupe et ça les prive de beaucoup de choses, entre autres des copains.
Je trouve que c'est mieux d'apprendre à l'école parce que le problème, c'est que si tu apprends à l'école et après tu veux faire les études, c'est un petit peu problématique parce que tu n'as pas de notes.
On l'entend bien, hein, ce qui revient le plus, c'est la vie sociale de l'enfant. Mais vous, vu que vous êtes enseignante, vous en pensez quoi?
Alors, je pense effectivement que c'est un aspect vraiment important, la sociabilisation. Et puis, c'est un peu compliqué de le faire seul à la maison. Après, une autre problématique, c'est peut-être aussi comment transmettre vraiment toutes les connaissances qui doivent être... transmises durant une année scolaire. Donc effectivement, il faut que les parents puissent avoir un grand suivi derrière, être qualifiés. Et puis après, par contre, je pense que ça peut être une bonne solution dans certains cas où, par exemple, une année n'a vraiment pas bien commencé pour un élève ou qu'il est dans une phase difficile. Pourquoi pas le sortir du cadre une année et puis faire l'école différemment. Mais je pense que c'est important que ce soit toujours en vue de le remettre après dans un système plus classique, parce qu'à un moment donné, il faudra quand même qu'il retourne dans le système et puis que ça puisse se faire comme il faut. Donc je pense une année, pourquoi pas. Mais...
Ah, parfait, merci beaucoup.
On va écouter un morceau de Beyoncé, Single Ladies.
Trip.
Nous voilà déjà à la fin de notre émission spéciale école. Je remercie très chaleureusement notre invitée du jour, Noémie Beljean. Merci pour votre présence et vos réponses. Et puis, merci à nos trois chroniqueuses qui ont bien suggéré cette interview. C'est une première pour elles. Donc, bravo à elles. Et puis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
Merci.
Au revoir. Merci pour l'invitation.
You'll be alone, and like a ghost, I'll be gone.
I'm a single lady.